Frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui donc la fête de Saint-Julien. Nous faisons mémoire du premier évangélisateur de notre région. Et il est vital de ne jamais oublier que nous avons reçu l'évangile de nos prédécesseurs. Un jour, les premiers chrétiens sont arrivés dans notre région. Ils ont annoncé l'évangile, persuadés qu'il portait une lumière, une libération pour leurs contemporains. Et ils ont ouvert une source de vie. Vous savez que la tradition nous dit que Julien a ouvert une source. L'oraison de la fête que nous avons entendue au début de l'Eucharistie dit « Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que Saint Julien apporte la lumière de l'Évangile à ceux qui nous ont précédés. Puisque nous avons reçu de lui le nom de chrétien, fais que nous conformions toute notre vie à la foi de notre cœur. Sommes-nous convaincus que le Christ est la lumière du monde? Sommes-nous désireux de conformer notre vie, toute notre vie, à cette lumière? Ces questions nous sont posées chaque année lorsque nous faisons mémoire de ceux qui nous ont apporté la lumière de l'Évangile. Cette fête nous interroge aussi sur ce que nous voulons transmettre à ceux qui vont nous suivre. Nous aussi, nous sommes face à un monde qui, pour une large part, ignore le Christ, ne le connaît pas. Un monde particulièrement fragile et incertain, traversé par l'angoisse et le vide. Et nous avons à être, comme le dit le Seigneur, dans ce monde, sel de la terre et lumière du monde. L'évangile de ce dimanche est celui des béatitudes. Jésus inaugure son enseignement par la proclamation des béatitudes, comme une introduction à tout son enseignement. Et c'est ce même texte, et cela a un sens, que nous lisons le jour de la Toussaint. Les béatitudes sont en premier lieu des paroles de bonheur. Elles sont une invitation au bonheur. Le cœur de l'homme aspire au bonheur et à la plénitude du bonheur. Et je pense à ce psaume qui dit « Qui nous fera voir le bonheur ?» À une question, comme un cri, l'aspiration de l'humanité. Et face à ce cri « Qui nous fera voir le bonheur ?» Jésus proclame les béatitudes. Bienheureux. Précision, ces promesses de bonheur ne doivent pas être entendues comme une joie renvoyée à un avenir lointain, exclusivement dans l'au-delà. Il ne s'agit pas d'un bonheur après la mort, comme parfois on a interprété, expliqué et compris les béatitudes. Tu souffres maintenant, mais tu verras plus tard au ciel, tu seras heureux. C'est une interprétation désastreuse. Les béatitudes sont un chemin de bonheur dès cette terre. Si nous commençons à vivre à partir de Dieu, si nous marchons en compagnie de Jésus, alors nous vivons selon de nouveaux critères. Nous vivons de la vie de Dieu dès à présent dans le monde. Il s'agit de vivre du bonheur du ciel dès maintenant. Vivre non pas dans un ailleurs futur, mais vivre ici et maintenant autrement, selon des critères différents de ceux du monde qui nous entoure. Et je reconnais, cela peut être déconcertant, et ça l'est, et peut-être même révolutionnaire. Les propositions de bonheur, ces propositions de bonheur, sont éloignées des propositions du monde et des modèles médiatiques. Les béatitudes constituent comme un paradoxe. Les critères du monde se voient inversés dès que l'on considère la réalité du point de vue de l'échelle des valeurs de Dieu lui-même, qui sont différentes de celles du monde. Je connais peu d'hommes publics ou de grandes écoles qui nous proposent pauvreté du cœur, douceur, pureté, miséricorde, et qui nous proposent d'être des artisans de paix, assoiffés de justice, et de choisir le Christ jusqu'à en être persécutés. Mais comment comprendre les béatitudes et comment les mettre en œuvre? Comment entrer sur ce chemin? En réalité, les béatitudes constituent, d'une manière voilée, une biographie intérieure de Jésus, un portrait de sa personne. Le premier, et au fond le seul à les vivre pleinement, c'est Jésus. Et pour pouvoir réellement les comprendre et les vivre, il nous faut regarder comment lui les a vécues. Heureux les pauvres de cœur. Jésus a été pauvre depuis sa naissance dans une crèche jusqu'au dépouillement de tout sur la croix. Il a vécu, et c'est cela la pauvreté du cœur, dans la dépendance totale de son Père. Car le propre des pauvres, c'est de dépendre, c'est d'avoir besoin des autres. Heureux les doux, c'est lui qui invite ses disciples, « Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, vous trouverez le repos, la douceur, c'est le contraire de la violence. » Et Jésus renonce à la violence. Quand on lui demande, Pilate, ton royaume, es-tu roi? Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, j'aurais des soldats pour venir me défendre. Heureux ceux qui pleurent. Jésus a pleuré sur Jérusalem qui refuse sa venue. Il a pleuré sur la détresse de Marthe et de Marie à la mort de Lazare. La tristesse de Jésus à son origine dans la compassion, saisie par le drame de l'humanité. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Vous savez, être juste dans la Bible, c'est être ajusté à la volonté de Dieu. C'est vouloir prendre le chemin de la vérité. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. En tout, il a cherché à pratiquer la volonté de Dieu. Heureux les miséricordieux, il est celui qui révèle la miséricorde du Père, plus il est la miséricorde même. C'est lui le véritable bon samaritain qui s'approche de l'homme blessé que nous sommes. Heureux les cœurs purs, c'est lui qui nous enseigne que ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui le rend impur, mais ce qui sort du cœur de l'homme. En lui, en Jésus, il n'y a pas de mensonge, pas de calcul. Il n'y a en lui aucun retour sur lui-même. Heureux les artisans de paix, il est le prince de la paix. En lui, les hommes sont réconciliés avec Dieu et entre eux. Et c'est les premiers mots du Christ ressuscité. La paix soit avec vous. Heureux les persécutés pour la justice. Lui seul, Jésus, est le juste. Il est l'innocent condamné et il prend sur lui l'injustice humaine. Heureux serez-vous si l'on vous persécute, si l'on dit toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Cette béatitude est différente des autres. Jésus lui-même a été insulté et mis à mort. Le disciple n'est pas au-dessus de son maître. Il doit se contenter d'être comme son maître. Y a-t-il une joie plus grande pour le chrétien que de ressembler au Christ? Nous sommes donc invités à regarder Jésus, à le contempler, contempler la manière dont lui incarne et vit les béatitudes, pour apprendre de lui, pour nous laisser attirer par cette beauté, les béatitudes, être pauvre de cœur, doux, assoiffé de justice, pur, miséricordieux, artisan de paix, persécuté. sont un chemin de bonheur, car elles sont associées à l'amour. Elles sont renversement de valeur, car détournement de soi pour aimer, aimer comme Jésus. Et on ne peut être heureux si on n'est pas aimé, mais si on n'aime pas. Peut-être que l'autre moyen pour comprendre et entrer et vivre les béatitudes, c'est de regarder les saints. En réalité, les saints sont ceux qui ont mis en œuvre les béatitudes. Les saints sont les authentiques interprètes de l'Écriture. Pour comprendre l'Écriture, il faut regarder les saints. Le sens de la parole de Dieu se révèle avant tout grâce aux hommes et aux femmes qui se sont laissés tout entiers saisir par elle et qui l'ont vécu de tout leur être. Donc je vous invite à faire l'exercice dans la semaine qui vient, de mettre en relation chacune des béatitudes avec tel ou tel saint. Vous avez le choix, ils sont multitudes. Et d'apprendre à vivre à leur école. Je vous invite à choisir une des béatitudes, une d'entre elles, une seule. Et passez le reste de votre vie à la comprendre, à la mettre en œuvre avec la grâce de Dieu, à vous laisser transformer de l'intérieur par elle. Donc en sortant de la cathédrale, tout le monde en choisit une pour le reste de sa vie. En réalité, les béatitudes expriment la situation des chrétiens dans le monde. Jésus invite les disciples à être dans le monde sans être du monde, à vivre dans le monde, à aimer le monde sans lui appartenir. Et il me semble que notre mode de présence au monde ne peut être qu'à la manière des béatitudes, témoin du bonheur, mais selon des échelles de valeur de Dieu et non des hommes. Les chrétiens doivent témoigner d'un nouvel art de vivre, d'une autre manière de vivre. C'est vital. C'est le défi du monde devant nous, que nous vivions autrement, que nous proposions une autre manière de vivre. Vous avez entendu saint Paul dans la lettre aux Corinthiens, en tout cas pour ceux qui comprennent l'allemand. Ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion les sages. Ce qu'il y a de faible pour couvrir de confusion ce qui est fort. Ce qui n'est pas pour réduire à rien ce qui est. Ces propos de saint Paul sont une illustration des béatitudes. C'est aussi l'expérience personnelle de saint Paul. Lui qui est un peu plus loin dans cette même lettre dit « Pour moi, quand je suis venu chez vous, frères, je ne suis pas venu vous annoncer les mystères de Dieu avec le prestige de la parole ou de la sagesse. Non, je n'ai rien voulu savoir parmi vous, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, je me suis présenté à vous, faible, craintif et tout tremblant. C'est le chemin qu'a pris Jésus lui-même. Celui de la faiblesse et de la fragilité, l'enfant dépendant dans la crèche à Noël, le condamné à mort, dépouillé de tout, sur la croix, le salut du monde, la réconciliation avec Dieu, et entre nous, le pardon, jaillit de la croix. La paix se réalise dans la fragilité absolue, scandale pour les Juifs, folie pour les païens. La sagesse de Dieu, c'est la folie de la croix. En réalité, il n'y a pas d'autre chemin pour nous qui voulons suivre le Christ. Parfois, on vient encore me dire, Monseigneur, il faut que l'Église soit plus brillante, en tout cas plus efficace. Parce que question efficacité, plus performante. Alors que l'Écriture nous dit que Dieu a choisi ce qui n'est pas pour confondre ce qui est. Il y a là quelque chose à comprendre, à entendre. Mes pensées ne sont pas vos pensées, mes chemins ne sont pas vos chemins, dit un autre passage de l'Écriture. quand nous regardons l'histoire de l'Église et les œuvres qui ont porté du fruit, parfois de manière extraordinaire et incroyable. Dieu a toujours choisi pour les réaliser des hommes et des femmes, limités, inattendus, souvent ne correspondant pas du tout aux critères de la brillance humaine. Le Seigneur cherche encore, aujourd'hui, maintenant, des hommes et des femmes pauvres, limités, qui acceptent de se laisser saisir par sa parole pour transformer le monde. Alors, avis aux candidats. Dans quelques instants, maintenant, un certain nombre de jeunes ou moins jeunes vont prendre l'engagement que nous avons appelé l'engagement des 72, en référence, vous savez, aux 72 disciples envoyés en mission par Jésus, mais peut-être aussi en référence aux 72 du département de la Sarthe. Bon, ce n'est pas scripturaire, mais... Donc, ils vont s'engager pour une année à être des disciples missionnaires dans notre diocèse. D'une manière modeste, de participer ensemble à la vie missionnaire dans le diocèse à la suite de Saint-Julien. Donc je vous invite, mes chers frères et sœurs, je vous invite, c'est pas compliqué, à vous laisser saisir par l'amour du Christ, à le suivre avec vos limites et vos pauvretés. Je vous invite à cette fidélité. N'ayez pas peur. Le Seigneur a besoin de vous. N'ayez pas peur d'aspirer à la sainteté. Ça, vous avez le droit. Si votre idéal, c'est d'être saint, ça, vous avez le droit. Mais Dieu est capable de faire infiniment au-delà de ce que nous pouvons imaginer et même concevoir.